affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Je ne sais pas comment les nouvelles générations, celles que l'on nomme de façon d'ailleurs assez inélégante, les générations X, Y et maintenant Z, perçoivent le monde dans lequel nous vivons, mais pour nous qui avons vécu dans la seconde moitié du siècle précédent, dans le XXe siècle, le monde présent ne lasse pas de provoquer une certaine perplexité, voire même une certaine angoisse, tant il paraît difficile à déchiffrer. Ce sentiment, d'ailleurs, n'étreint pas seulement les citoyens et les communs des mortels, puisque j'ai lu récemment que les experts en stratégie de l'armée américaine avaient forgé pour décrire notre monde l'acronyme VUCA, signifiant « volatile, incertain, complexe et ambigu ». Voilà qui pose un décor, mais à Canal Academy, nous n'allons pas nous laisser impressionner, déstabiliser par un tel acronyme et par un monde dans un tel bouillonnement, car nous avons les ressources pour tenter de le déchiffrer et d'y naviguer. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui en recevant dans notre studio Thierry de Montbrial. Thierry Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politique, membre de l'Institut, donc président et fondateur de l'Institut français des relations internationales, qui est un think tank français de référence, comme chacun sait. Et ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes également fondateur de la World Policy Conference, qui vise à sonder justement les évolutions de notre temps et celles du monde, de façon à donner des outils pour le comprendre, mais aussi ébaucher ce qui pourrait être une nouvelle gouvernance mondiale raisonnable. Est-ce bien cela ? D'ailleurs, ça peut être la première question.
Oui. Déjà, il faut comprendre ce qui se passe, mais disons qu'en gros, le monde est de plus en plus interdépendant. Quand on a un système de plus en plus complexe, de plus en plus interdépendant, il est de plus en plus sujet à, on va dire, l'effet papillon. C'est-à-dire que le moindre choc, quelque part, peut avoir des conséquences imprévisible et incommensurable sur l'ensemble du système, et ça conduit au chaos. Le problème de la gouvernance mondiale, c'est comment faire pour que ce chaos soit empêché et tout au moins maîtrisé, contenu. Faute de quoi, évidemment, on va vers des lendemains extrêmement difficiles.
Non, j'ai oublié de préciser, preuve que les lendemains difficiles peuvent exister, sont peut-être d'ailleurs en partie déjà là, de façon latente. Vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle « Vivre le temps des troubles » chez Albin Michel. Comment se manifestent-ils aujourd'hui, ces troubles ?
Naturellement, d'abord, le titre « Le temps des troubles », c'est un clin d'œil, comme chacun sait, au tournant du XVIe siècle en Russie, l'époque d'Ivan le Terrible, qu'on appelait le temps des troubles dans l'histoire de la Russie. Et les troubles, ce sont des périodes où, justement, comme vous le disiez, personne ne sait exactement où on va et où, généralement, on appréhende l'avenir avec beaucoup de crainte, d'espoir aussi, mais de crainte. Je crois que la meilleure façon de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est de faire ce que je fais dans le livre, qui a trois chapitres, c'est un petit livre. Le premier chapitre s'appelle « La présence du futur ». Je vais expliquer ça dans un instant, « La présence du futur ». Le second s'appelle « L'empreinte du passé ». Et la troisième, « Le choc du présent ». Là, vous voyez, rien qu'à l'intitulé de ces chapitres, il y a une sorte d'image géologique, comme des plaques tectoniques. Il y a la plaque du futur. Et cette plaque du futur, elle n'a jamais été aussi contrastée avec ce que le monde a connu qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous voyons déjà que le futur immédiat est rempli de nouveautés et de surprises. On parle de voitures électriques, de robots, de l'omniprésence des objets connectés, de villes intelligentes, etc. Tout le monde parle d'objets intelligents et ainsi de suite. L'intelligence artificielle, dont je parle beaucoup aussi dans le livre, mais subrepticement, on glisse de ce qui est déjà là, donc la présence du futur, ou annoncée, on glisse vers la science-fiction, carrément. Et je crois que c'est assez fascinant. Jamais dans le passé, le futur ne s'est représenté d'une manière aussi discontinue. Et puis à côté de ça, vous avez l'empreinte du passé, la mémoire qui joue un rôle absolument essentiel, les résurgences d'ailleurs de mémoire, toutes les réflexions de base sur la notion de progrès, donc la culture au sens le plus large du terme, mais également les résurgences de passé les plus archaïques, comme on le voit aujourd'hui, par exemple, avec le problème du terrorisme islamiste. Et donc, vous avez comme deux plaques tectoniques, celle du passé et celle du futur, et qui se rencontrent. Hein, le choc de deux plaques tectoniques, ça fait des tremblements de terre, des soulèvements de montagnes. Mais là, ces plaques sont tellement contrastées, elles n'ont jamais autant été dans le passé, que l'on se trouve devant une situation qui est à la fois exaltante, mais aussi un peu effrayante. Et si vous me permettez, je rajouterai un mot qui est un peu d'ordre philosophique. Parce que cette image du choc de plaques tectoniques du futur et du passé, c'est une métaphore aussi qui rappelle une notion philosophique fondamentale, c'est que le présent n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le présent ? Le présent, c'est toujours un certain, et à toute échelle d'ailleurs, un certain degré de recouvrement entre un passé qui est toujours là et un futur qui est déjà là.
Chose qui mérite d'être rappelée, qui est une des caractéristiques aussi de notre monde, c'est d'adorer vivre dans l'instant. Et de vouloir se délester de tout héritage, quitte à provoquer des catastrophes, comme vous l'expliquez à plusieurs reprises.
Et l'héritage, qu'on le veuille ou non, est toujours très lourd. Et il l'est d'ailleurs encore plus dans les temps difficiles. Vous savez, Anna Karenine, le roman de Tolstoï, commence par cette phrase qui est célébrissime. Il écrit « Toutes les familles heureuses se ressemblent, les familles malheureuses le sont chacune à leur manière, ou chacune à sa manière. » Et c'est vrai aussi des pays, des peuples. J'ai des souvenirs très précis là-dessus à l'époque de la guerre froide, les peuples malheureux connaissent très bien leur histoire. Les peuples heureux oublient leur histoire. Les Français connaissent mal leur histoire, ou tout au moins l'ont mal connue ces dernières décennies, parce qu'ils ne le savaient pas, mais ils étaient heureux. Mais quand on commence à être malheureux, on se ressource dans son histoire, et cela peut donner les choses les plus étranges.
Vous avez parlé de ces plaques tectoniques qui se rencontrent pour créer des troubles. Prenons l'ouvrage tel que vous l'avez écrit, en commençant par cette présence du futur. Alors, ce que je trouve assez étonnant, vous allez certainement nous éclairer là-dessus, c'est que habituellement, en tout cas dans la tradition occidentale, depuis les Lumières, le futur est plutôt décrit sous des atours séduisants. Il nourrit une foi importante dans le progrès et permet la mobilisation. Aujourd'hui, alors même qu'il y a des mutations technologiques formidables avec des perspectives très très fortes, on a quand même le sentiment que la foi dans le progrès s'est épuisée. Est-ce que ce n'est pas une partie du problème contemporain ?
Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse dire les choses exactement de cette manière. Vous savez, à l'époque du Christ, on croyait que la fin du monde était imminente. Et je crois d'ailleurs qu'il est impossible de comprendre le contexte de cette époque si on ne se le rappelle pas. C'est-à-dire que la fin du monde était considérée comme imminente. Et quand on pense à la fin du monde, dans l'optique chrétienne, par exemple, il y a un côté exaltant qui est l'accès au paradis, mais il y a un aspect qui est moins exaltant, qui est l'enfer. Et d'ailleurs, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, de ce point de vue-là, n'est pas particulièrement réjouissant. En fait, je crois que les représentations du futur ont toujours eu ces deux aspects, le paradis et l'enfer, si je reste sur cette métaphore. Ce qui est vraiment nouveau, encore une fois, c'est que jamais dans l'histoire des présents successifs, jamais le contraste entre le passé et le futur n'a été aussi fort. Naturellement, dans le temps, encore déjà au XVIIIe, n'est-ce pas, on se représentait un peu le monde comme cyclique, c'est-à-dire que l'avenir était pour l'essentiel la reproduction du passé et le progrès, au sens matériel du terme, était lent. Aujourd'hui, nous voyons bien que depuis, mettons, la fin des années 60, si on date de cette période l'avènement de la civilisation de l'information, et de l'Internet par la suite, jamais on a eu, sur une période aussi prolongée, des vagues successives et de plus en plus hautes, de transformations technologiques. Et ça, c'est à la fois exaltant et effrayant. Et vous parlez du progrès. Alors, je m'amuse dans le second chapitre, je crois, du livre, c'est-à-dire l'empreinte du passé, à faire une sorte de dissertation, des élèves de préparant le baccalauréat pourraient en faire, sur la notion de progrès, parce que on voit bien que la notion de progrès est une notion extraordinairement complexe. Si on sort de l'idée de progrès comme un stock de connaissances, toute notion plus large de progrès est sujette à des discussions, ne serait-ce que d'ordre éthique, par exemple.
Oui, vous démontrez bien qu'effectivement, le stock de connaissances est une chose, la mise en œuvre de ces connaissances, et finalement, qu'est-ce qui intéresse les gens ? C'est la mise en œuvre de ces connaissances et l'action. C'est beaucoup plus difficile. Voilà.
Et si vous prenez le sujet bateau, par exemple, de l'énergie nucléaire et a fortiori de l'arme nucléaire, on voit bien que la traduction, l'interprétation de cela en termes de progrès est extraordinairement discutée, discutable et complexe.
Et peut-être à nombreuses reprises, on a le sentiment, vous voyez quand même dans l'accélération des progrès technologiques, leur forme et aussi leur nature, une rupture beaucoup plus importante que celle qu'il y a pu y avoir dans les siècles précédents. Je voudrais que vous notamment peut-être parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les progrès technologiques lui permettent d'influer sur la destinée même de la planète, mais aussi peut-être même sur la nature même de l'humanité. C'est-à-dire que vous utilisez l'anthropocène. On serait rentré dans ce terme. Commençons par celui-ci. Oui, l'avenir de la planète, et nous serions rentrés dans l'anthropocène.
Nous pouvons prendre deux exemples pour illustrer ce que vous dites. Bon, la première, effectivement, c'est cette idée d'anthropocène qui provient d'un chimiste, en réalité, un prix Nobel de chimie qui s'appelle Crutzen, et qui a essayé de frapper les esprits en disant qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique, à laquelle d'ailleurs il donne une date très précise, qui est tout à fait inhabituelle pour une ère géologique, puisqu'il le date en fait de l'invention de la machine à vapeur par Watt. Et cette ère géologique, elle aurait donc à peine plus de deux siècles. Deux siècles, évidemment, c'est totalement insignifiant à l'échelle des temps géologiques. Mais c'est pour marquer l'idée, il voulait marquer les esprits en disant que l'activité humaine transforme notre planète, pas seulement, comme on le dit tous les jours, du point de vue du climat, mais aussi du point de vue des mécanismes les plus profonds de la croûte terrestre et donc modifie cette croûte terrestre qui est le propre justement d'une évolution géologique. Alors ça, c'est un aspect des choses. Scientifiquement, d'ailleurs, c'est discuté, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Bon, l'autre exemple qu'on pourrait prendre, naturellement, c'est la transhumanisation, c'est-à-dire les spéculations sur la technologie qui permet de rapiécer indéfiniment l'homme et de le rendre à la limite immortel. Et là, vous voyez, ce second point illustre bien ce que je voulais dire quand je parlais de glissement vers la science-fiction. Et derrière ça, comment ne pas voir comme une recherche d'un dieu sans dieu, c'est-à-dire le dieu de la technologie, l'homme qui se prend pour dieu, le mythe de Prométhée, dans l'acception la plus large du terme. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que l'homme recherche à se montrer égal ou supérieur à Dieu, ça a été au XXe siècle toute l'idéologie communiste. Donc l'idéologie communiste, c'était une idéologie matérialiste qui était exactement aussi de la même veine. Nous avons là une bonne illustration des changements qui touchent évidemment aux changements mentaux. Mais un autre point, vous disiez tout à l'heure que les connaissances, finalement, ce qui intéresse les gens, disiez-vous, c'est l'action. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que d'abord, il y a beaucoup de gens, peut-être vous et moi, qui s'intéressent à la connaissance en tant que connaissance. Là, vous me direz, ce n'est peut-être pas l'immense majorité, peut-être, mais il n'empêche...
C'est la quasi-totalité de nos auditeurs, donc allons-y.
Alors, c'est en effet la quasi-totalité de nos auditeurs, j'en suis certain, mais même ceux qui ne se préoccupent pas tous les jours de la connaissance en tant que connaissance sont marqués par des schémas mentaux qui sont hérités des siècles. Par exemple, le schéma de l'espace, le temps, la place de la Terre dans le système solaire, du système solaire dans la galaxie, ainsi de suite. Or, tous ces schémas mentaux ont volé en éclats au XXe siècle, et je consacre un certain nombre de pages sur ce point dans le livre, à la fois en passant en revue certains des grands concepts scientifiques comme la théorie de la relativité ou la mécanique quantique, qui est peut-être d'ailleurs plus étrange encore que la théorie de la relativité. Mais je parle aussi de sujets qui paraissent encore plus abstraits, comme certaines notions mathématiques qui disent en gros que certaines propositions mathématiques peuvent être à la fois vraies et fausses, ce qui est un peu étonnante du point de vue de la logique habituelle. Et d'une manière assez extraordinaire, ce genre de considération, pour ceux qui connaissent un peu les théorèmes de Gödel, ce genre de représentation a un pendant extrêmement concret, puisque c'est la manière dont les algorithmes convergent ou pas, ce qui dans les techniques de l'information est évidemment une question essentielle. Alors toutes ces choses-là, pour l'instant je parle de manière extrêmement concise bien entendu, mais toutes ces choses-là, si nous avions brusquement des auditeurs du XVIIIe siècle qui se réveilleraient pour entendre ce que je suis en train de dire, ils n'en comprendraient pas un mot, évidemment. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que tous les repères de toutes sortes, et ça s'est traduit aussi dans la littérature, dans l'art, etc., etc., tous les repères et immémoriaux ont volé en éclats.
Oui, à travers ce chapitre scientifique, ce que vous cherchez à nous dire, c'est que l'incertitude et l'ambiguïté est au cœur même de notre vision, non seulement de notre environnement immédiat, de notre expérience sensorielle ou politique ou sociale immédiate, mais elle est inscrite au cœur même de la connaissance contemporaine.
En d'autres termes, plus rien ne peut être tenu pour certain, alors que dans l'immense majorité de l'histoire humaine, de la trajectoire humaine, nos prédécesseurs étaient bardés de certitudes.
Mais au même moment, un certain nombre de certitudes ou de croyances sont toujours là.
Alors, c'est un certain nombre de certitudes ou de croyances sont toujours là. Et en effet, je traite beaucoup de la question des religions. Bon. Et la question des religions, je l'aborde à la fois du point de vue... Rappelons-nous les trois chapitres, n'est-ce pas, la présence du futur, l'empreinte du passé, le choc du présent, et je traite des religions dans chacun des trois chapitres.
Oui, ça c'est important, c'est que les religions pour vous n'appartiennent pas du tout au passé, elles sont d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Absolument, parce que je crois que les religions, si on parle des religions, il faut discerner au moins quatre niveaux d'appréhension de ces religions. Il faut voir la religion ou les religions d'un point de vue, on va appeler anthropologique, un tout autre aspect, le point de vue ethnologique, encore un autre aspect, c'est le point de vue sociologique ou culturel, et encore un autre aspect, c'est le point de vue politique. Alors, si vous voulez, on peut dire quelques mots rapides sur chacun de ces aspects. Alors, l'aspect anthropologique d'abord, moi je suis de ceux qui croient que l'homme, alors je parle de l'homme en général, c'est-à-dire je ne parle pas de tel ou tel homme ou femme en particulier, je parle le genre humain en général. Je crois que l'homme est un animal transcendantal, c'est-à-dire que l'homme en tant que tel a une aspiration transcendantale, c'est-à-dire qu'il a une plus ou moins vague conscience que les réalités qu'il appréhende au sens premier du terme sont en réalité enveloppées dans des réalités supérieures auxquelles il n'a pas accès. Auxquelles il n'a pas accès, sauf que certains hommes, c'est ma conviction et je dirais même mon expérience, je crois que certains hommes, ou femmes bien entendu, ont des fulgurances. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont des fulgurances, qui aperçoivent, entrevoient parfois des sur-réalités auxquelles le commun des mortels n'a pas accès. Vous savez, il y a ce vers dans le bateau ivre que je trouve, qui me fascine, et où Rimbaud écrit « Et j'ai vu, c'est le bateau qui parle, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Bon. » Eh bien, c'est exactement ça, si vous voulez. Je crois que certains hommes ont une sorte de capacité de flash d'entrevoir des surréalités. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas cette expérience, c'est incompréhensible et peuvent reformuler ça comme ils le voudront en termes d'illusion, de tous les vocabulaires qu'on peut employer. Mais cet aspect anthropologique, je crois, est à la base des religions et du phénomène religieux. Et de ce point de vue-là, je crois qu'en effet, l'appel, le besoin religieux sera aussi présent qu'il y aura des hommes. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne l'aspect ethnologique, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que quand on se représente l'histoire de l'humanité, bon, on voit bien que les hommes ont commencé par vivre en petits groupes et en petits groupes épars. Et donc, il est tout naturel que chacun de ces groupes se soit fait une représentation du divin, donc l'aspect anthropologique, mais que cette représentation s'est traduite en institutions et finalement en réalité très terrestre et soit devenue finalement des signes d'identité des peuples. Et donc, à partir du moment où le transcendantal perd en fait sa dimension transcendantale en grande partie pour devenir un élément identitaire, le phénomène dominant dans l'aspect religieux n'est plus la transcendance, mais l'identité. Et là, on tombe dans des choses extrêmement concrètes. Par exemple, on ne peut pas comprendre la Russie post-soviétique si l'on ne voit pas qu'après avoir perdu, en somme, l'illusion de la religion matérialiste, c'est-à-dire du communisme, les Russes se sont réfugiés dans l'orthodoxie, dans le christianisme russe, c'est-à-dire dans l'orthodoxie russe. Et là, ce n'est plus une question de foi, c'est une question d'identité. Et même remarque pour comprendre l'islamisme, qui, dans les pays de l'ère musulmane qui ont essayé tous les régimes politiques après la décolonisation, après avoir échoué dans toutes leurs tentatives, ben, qu'est-ce qui restait ? Il restait la religion, et la religion devient à ce moment-là un facteur identitaire. Là, nous sommes dans l'aspect ethnologique. L'aspect sociologique ou culturel, ben écoutez, il est évident. Nous sommes là à Paris, allons nous balader n'importe où, y compris dans l'environnement de l'Institut de France où nous nous trouvons. Nous allons voir partout des églises, nous allons voir des châteaux avec leurs traces multiséculaires. Nous allons nous balader au musée du Louvre et nous verrons partout l'empreinte du christianisme.
C'est des vitrines qui préparent Noël.
Les vitrines qui préparent Noël et qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que vous voyez à Taïwan ou à Hong Kong. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été étonné de la mauvaise querelle faite à la question des racines chrétiennes de l'Europe, parce que la racine chrétienne de l'Europe, c'est une réalité sociologique et culturelle évidente et qu'il ne faut pas confondre, encore une fois, avec l'aspect transcendantal. Puis reste naturellement le quatrième niveau, qui est l'aspect politique et qui est la clé pour comprendre le phénomène du terrorisme islamiste, les mouvements comme Daesh, Al-Qaïda, etc.
Dans ce tableau, prenons pour essayer de l'appliquer à un cas concret, prenons celui de la Turquie. Quels sont les éléments que vous retrouvez? L'ensemble, les quatre? L'évolution de la Turquie actuelle?
Vous retrouvez bien entendu les quatre, parce que l'aspect anthropologique, c'est que les Turcs, globalement, sont pratiquants, c'est-à-dire sont des beaucoup, sans doute, personne ne peut mesurer, parce que la question de la foi intime est par définition non mesurable. Enfin, vous avez une pratique religieuse qui correspond certainement chez beaucoup de Turcs à un vécu profond. Vous avez la dimension identitaire. Alors là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le rêve d'Atatürk, Mustafa Kemal, donc le fondateur de la République, lui, il a voulu, après la Première Guerre mondiale, où la Turquie a failli purement et simplement disparaître après la chute de l'Empire ottoman, il a voulu refonder la Turquie moderne dans l'idéologie, en fait, française, très largement, d'ailleurs, de laïcité. Bon. Et on voit bien, par ce qui se passe depuis quelques années, que ça a beau avoir duré pendant quelques décennies, les racines profondes, en l'occurrence, étaient là. C'est-à-dire que sur le plan ethnologique, dans ma classification, les signes identitaires profonds de la Turquie sont probablement bien plus proche de l'islam que de la laïcité. Et je pense que le rêve de Erdogan, le président turc, c'est de, à la fois de maintenir la modernité au sens, on va dire, matériel du terme, tel que Mustafa Kemal a pu la porter, mais ceci tout en ressourçant, en retrouvant les racines musulmanes, alors islamiques, de la Turquie. Bon, l'aspect culturel, le troisième aspect, ou sociologique, est évident. Hein, la Turquie est parsemée de mosquées et de tous les signes de la religion musulmane. Et quant au dernier point, eh ben, la Turquie moderne cherche à lutter contre ce terrorisme islamiste dont elle pourrait évidemment se trouver largement la victime.
Alors dans nos relations, vous avez cité deux exemples, celui de la Russie et celui de la Turquie. Il se trouve que ce sont deux États avec lesquels nous, occidentaux, pour faire vite, ou nous, européens, avons de plus en plus de difficultés à nouer des relations sereines. J'ai l'impression qu'au fil de votre ouvrage, dans ce monde de troubles, ce monde dangereux, dans lequel des accidents peuvent arriver, vous appelez à de la tempérance, de la modération, de la prudence, et voire même à mieux comprendre l'autre. Est-ce que cette réflexion sur la religion n'est pas aussi un appel à revenir au réel du monde tel qu'il est, c'est-à-dire comprendre que les autres peuvent être différents de nous et le respecter comme cela?
Alors ce point est en effet tout à fait essentiel, parce que la mondialisation, le concept de mondialisation a émergé à peu près dans les années 80 du siècle dernier. Ça fait une trentaine d'années qu'on parle de mondialisation comme on le fait aujourd'hui. Mais l'erreur profonde, c'est de croire que cette mondialisation conduit à un monde plat, c'est-à-dire où que vous alliez, vous retrouvez non seulement les mêmes paysages, les mêmes boutiques dans les bons quartiers, mais au fond, tout le monde pense de la même manière, etc., etc. Et ça, c'est une erreur absolument abyssale, qui correspond d'ailleurs à une forme, je n'hésite pas à le dire, de néo-impérialisme occidental qui imagine que le progrès, voyez-vous, on en revient à la notion de progrès, que le progrès, c'est la dissémination de ce qu'on appelle les valeurs ou des idéaux tels que les Américains ou les Européens les expriment. En réalité, on est extrêmement loin du compte. Et on voit au contraire que beaucoup de pays dans le monde nous accusent, et j'ai presque envie de dire souvent, non sans quelques raisons, de vouloir leur imposer, sous prétexte de valeur, de leur imposer des régimes politiques, par exemple, dont ils ne veulent pas. Alors ça, ce sont des choses extrêmement concrètes. La manifestation, hélas, typique de ces comportements, c'est le renversement de Saddam Hussein en 2003, où les Américains de l'époque étaient absolument convaincus que, une fois Saddam Hussein déboussolé, le libéralisme politique à l'occidental l'emporterait. Et évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et non seulement ça ne s'est pas passé ainsi, mais nous avons abouti d'abord à renforcer le pouvoir de l'Iran, car avant, l'Iran était contenu par l'Irak. Après la chute de l'Irak, l'Iran n'était plus contenu par personne, d'où un problème majeur qui est celui de l'époque contemporaine avec l'Iran. Et puis ensuite, ce très mal nommé printemps arabe, fondé sur une illusion, on renverse un dictateur et tout va mieux ensuite. Et vous voyez bien qu'au lieu de cela, le chaos s'est répandu. Et en Syrie, encore 6 ans après, non seulement le quart de la population a immigré, ce qui est tout de même considérable, mais nous avons encore des centaines de milliers de morts, personnes déplacées et souffrances horribles dans la région, avec en prime une déstabilisation qui touche l'Europe et bien au-delà.
Dans le même ordre d'idée, vous parlez du cas de l'Ukraine.
Oui.
Ce qui est plus polémique ou inattendu?
Ben, écoutez, polémique sans doute pour certains, mais le cas de l'Ukraine est en effet extrêmement intéressant. Car d'abord, quand on s'intéresse aux relations internationales, la première chose à faire, c'est d'avoir une bonne appréciation à la fois de ses propres intérêts à soi, les intérêts qu'on défend, mais il faut bien comprendre aussi les intérêts des autres, parce que si on se méprend sur les intérêts des autres, on peut se retrouver face à des difficultés qu'on n'avait pas anticipées. Or, pour les Russes, le minimum qu'elle pouvait attendre, c'était la neutralité de l'Ukraine, faute de quoi on peut être en désaccord avec eux, mais il s'agit de leur perception à eux, ils percevaient des dangers vitaux. Bon. Alors, on a assisté, après la chute de l'Union soviétique, à une action militante, partiellement aux États-Unis et partiellement en Europe, avec des pays comme la Pologne et la Lituanie, qui évidemment sont des pays dont l'histoire était extrêmement mêlée à la Russie et à l'Ukraine. Et aux États-Unis, comme vous le savez, il doit y avoir environ une vingtaine de millions d'Américains d'ascendance
d'Europe centrale.
Polonaise, d'Europe centrale, même polonaise particulièrement. Et donc tout cela a créé une effervescence et a conduit à des actions que des gens comme moi considèrent comme totalement irresponsables, qui étaient de vouloir pousser à marche forcée l'Union européenne, ce qui était absurde dans l'état de déséquilibre d'ailleurs dans lequel se trouvait l'Union européenne pour d'autres raisons, et surtout l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et ça, évidemment, c'était une provocation qui était absolument inacceptable pour les Russes. Et ce n'aurait pas été Poutine, ça aurait été un autre, ça aurait été exactement la même chose. Et je crois que nous vivons, et nous allons vivre probablement encore assez longtemps, les conséquences de cette erreur de jugement.
Alors, ce que nous avons décrit ici, c'est l'un des premiers termes que vous utilisez pour décrire finalement ce monde un peu tourmenté, difficile à déchiffrer. Malgré tout, il faut naviguer dans celui-ci, c'est la vie. On aurait pu naître dans un autre siècle, nous sommes dans celui-ci, et il faut bien s'y faire. Vous utilisez pour, en guise de point d'appui ou de repère, 4 termes. Hétérogénéité, c'est à peu près ce que nous venons de décrire, mais également, et c'est important de poursuivre par les autres, car on pourrait croire en vous comprenant mal que vous plaidez pour un retour à un monde uniquement d'intérêts nationaux dans lequel chacun se claquemurerait. Or, c'est tout le contraire. C'est plutôt une façon de prendre en compte cette diversité pour la façonner, la tempérer et la rendre vivable. Est-ce bien cela? Quels sont ces autres points d'appui que l'on peut utiliser?
Oui, alors je crois que vous avez parfaitement résumé la situation, parce que au fond, ce qu'on appelle la mondialisation, en termes simples, c'est la conséquence technologique ou technique et économique du progrès, justement, des technologies de l'information. Bon, c'est-à-dire que le monde est aujourd'hui techniquement ouvert de nombreuses façons, de toutes les façons possibles. Alors, si nous, et ça rejoint d'ailleurs le début de notre conversation, nous laissons aller à ces formes de propagande, finalement, qui sont, vous voyez, ce que Hubert Védrine appelle le droit de l'homisme, etc., c'est-à-dire vouloir absolument imposer aux autres leur façon de vivre, de se comporter, etc., etc., on ne peut que engendrer des confrontations, des guerres par conséquent, des réflexes nationalistes et finalement la division du monde, comme on l'a vu dans le passé, en particulier au début du XXe siècle, en bloc. C'est-à-dire qu'on multiplierait partout les réflexes de repli sur soi pour se protéger justement d'influences extérieures jugées nocives. C'est ça le grand risque. Donc, si nous voulons éviter cela, et si nous voulons maintenir ce que j'appelle maintenant un monde raisonnablement ouvert, vous faisiez tout à l'heure allusion à la très grande conférence internationale que j'ai créée, qui s'appelle la World Policy Conference, qui est mondiale, et dont l'objectif est précisément celui-là. Si nous voulons maintenir un monde raisonnablement ouvert, et empêcher donc l'érection de barrières, ce qui est techniquement facile. Les Chinois le savent très bien, d'ailleurs, même avec Internet, etc. Eh bien, il faut accepter de vivre avec des gens dont on ne partage pas nécessairement toutes les valeurs ou toutes les régimes politiques. On peut ne pas aimer le régime chinois de Xi Jinping, mais on ne va pas se mettre à faire la guerre contre la Chine pour je ne sais quoi d'ailleurs. Voyez-vous, donc il faut avoir une certaine modération, une certaine prudence, une certaine tolérance. Mais je crois aussi qu'il faut chercher à les comprendre, parce que avant de juger, de blâmer, de jeter l'opprobre, etc., il faut essayer aussi de comprendre pourquoi les autres font ce qu'ils font. Ensuite, on essaye d'exercer au mieux sa liberté de jugement, mais c'est pas seulement une question de tolérance au sens simpliste du terme, c'est aussi un effort de compréhension des autres. Et la gouvernance mondiale doit être une sorte de compromis. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il est extrêmement difficile de supporter dans la vie. Vous voyez par exemple, je pense aujourd'hui la Birmanie avec la question des Rohingyas dont on parle beaucoup ces jours-ci. Le pape lui-même, qui n'est pas suspect à cet égard, a évité de prononcer leur nom quand il était là-bas. Il l'a prononcé ensuite, quand il était au Bangladesh.
Car sinon, il aurait mis de l'huile sur le feu, vous pensez?
Sinon, ça aurait été contre-productif, parce que je connais suffisamment la diplomatie pour savoir que ça a été un accord qui a été passé à l'avance. Et s'il n'avait pas accepté cela, tout simplement, il n'y serait pas allé.
Alors, dans la description de ce monde, vous avez utilisé le terme, et on l'a dit, d'hétérogénéité, et celui de multipolarité. Est-ce que finalement, nous occidentaux, on n'a peut-être pas fait le deuil quand même de ce nouvel ordre mondial
Je crois que, vous savez, Blaise Pascal dit, je crois que c'est dans la première lettre au provincial, peu m'importe le mot pourvu qu'on m'avertisse du sens qu'on lui donne. Bon, le terme multipolarité, je l'interprète non pas dans le sens d'un certain nombre de pays égaux, comme si les États-Unis, la Chine et le Luxembourg étaient des pays égaux, mais je l'interprète dans le sens qu'un certain nombre de pays ont un rôle principal, dominant même, au moins dans une certaine sphère. Alors, aujourd'hui, l'expression « sphère d'influence » n'a à mauvaise presse à cause du sens qu'on lui a donné dans le passé, mais c'est une réalité. Le Nigeria exerce une influence considérable sur son environnement. L'Inde exerce une influence, il n'est pas une puissance vraiment mondiale, mais exerce une influence considérable dans son environnement, et on peut continuer la liste à diverses échelles. Multipolarité, c'est une façon de dire qu'il y a un certain nombre de pays. On ne peut pas en dresser une liste exhaustive, parce que ça dépend aussi un peu des sujets, si vous voulez. C'est si on s'intéresse plutôt à l'économie ou à aux questions militaires, etc., on peut avoir des listes un peu différentes, même si elles se recoupent en partie. Mais c'est tout de même l'idée qu'il y a des puissances, et je fais exprès d'employer le mot puissance, qui ont une forme de responsabilité sur leur environnement. Et je pense que le noble objectif d'arriver à la paix dans le monde, paix qui n'est jamais parfaite, mais enfin disons au sens pour maintenir un minimum de stabilité dans le monde, ce noble objectif suppose que pas seulement donc les puissances principales, comme aujourd'hui les États-Unis, la Chine ou le Japon et quelques autres, mais toutes ces puissances dites régionales aussi, soient engagées dans un jeu un peu commun, avec des règles du jeu respectées, etc. Voilà. Donc la multipolarité, vous voyez, c'est pas cette multipolarité que je suis en train d'essayer de vous décrire, n'est pas une multipolarité naïve.
Alors précisément, cette multipolarité, est-ce qu'elle n'implique pas aussi, et c'est une des autres surprises, en tout cas pour certains lecteurs certainement, c'est que ce monde et cette façon de le gérer n'est pas du tout post-étatique, comme on a pu le croire à un moment. Au contraire, les acteurs principaux et ceux auxquels vous en appelez pour tisser des relations sereines sont avant tout, pas seulement, mais avant tout, les États.
Oui, alors là-dessus, je crois, vous savez, il y a des modes, il y a des cycles de pensée. Pour ce qui me concerne, suivant ces choses-là depuis plus de 40 ans, je ne suis jamais tombé dans cette naïveté de la disparition des États, des frontières, etc. Et je crois que les États continuent de jouer un rôle absolument essentiel. Mais ce rôle, il évolue. Par exemple, il est certain que beaucoup d'activités après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, pour différentes raisons, pouvaient tomber dans l'escarcelle des États, n'y ont plus forcément leur place aujourd'hui. Les chemins de fer, ce qui me traverse l'esprit, n'ont aucune raison d'être dirigés par l'État, ce qui pouvait avoir un sens dans le contexte des années 45-50. Donc les États doivent être reconfigurés, le régalien doit être repensé, mais on voit bien que dans le monde actuel, il y a une modulation à la fois par le haut et par le bas. Par le haut, c'est parce que, pour beaucoup de questions, de façon exemplaire, le climat, les espaces pertinents pour traiter le problème vont bien au-delà des États. Et à la limite, c'est la planète dans son ensemble. Pour d'autres aspects, c'est au contraire beaucoup plus local. Et il n'est pas étonnant qu'on voit des tendances contradictoires, apparemment contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté, la tendance à la construction de nouveaux espaces politiques comme l'Union européenne, qui est à cet égard un laboratoire exemplaire, ou, dans le sens inverse, les revendications d'autonomie plus grande avec les dérapages comme la Catalogne.
Alors justement, vous avez parlé de l'Union européenne, dans ce nouveau monde, et peut-être qu'on va conclure avec cet aspect, quelle carte, quel positionnement peut jouer la France et l'Europe dans ce grand échiquier, à la fois pour leur propre bien, c'est légitime, mais aussi pour la stabilité globale.
Alors, pour répondre brièvement, Je dirais ceci. D'abord, il faut raisonner à l'échelle de décennies, je dirais même à l'échelle du XXIe siècle dans son ensemble. Or, pour ce XXIe siècle, quel est le grand enjeu ? Le grand enjeu, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Alors, bien entendu, il peut se passer beaucoup de drames en Chine, mais il est impossible d'envisager, surtout comme ça, tous les scénarios possibles. Mais admettons que la Chine continue sa croissance. Ce que nous appelons l'Union européenne, et même d'ailleurs un espace plus grand, puisque je lui mettrai volontiers la Russie et ce qui l'entoure, vont se trouver coincés entre les États-Unis et la Chine. Et je pense que nous devons, et là je dis nous, Européens, nous devons réfléchir en termes de décennies et nous demander qu'est-ce que nous voulons faire. Et là, je crois que la réponse est assez simple dans son principe. Parce que si nous ne parvenons pas à nous organiser, ce qui ne veut pas dire que ce soit exactement de la façon dont les pères fondateurs de la communauté devenue Union européenne l'ont souhaité, il y a un côté pragmatique dans tout cela, mais si nous ne parvenons pas à ça, nous allons nous retrouver laminés dans cette concurrence entre les États-Unis et la Chine, et en particulier, n'est-ce pas, sur le plan économique et technologique, alors qu'on voit bien qu'au bout du compte, ces dimensions technologiques aussi et économiques ont un aspect absolument fondamental. Et de mon point de vue, là, par exemple, on a fait allusion à la Russie, l'Ukraine, etc. Je crois que les intérêts de rapprochement entre la Russie et l'Ukraine et l'espace de l'Europe occidentale, et ces intérêts sont absolument fondamentaux parce que ce qui est derrière, c'est-à-dire ce grand affrontement, cette grande rivalité qui est en train d'émerger, déterminera tout le reste.
Bon, ça, il s'agit donc à travers cette sorte de construction d'un espace, utilisant le mot eurasiatique, il s'agit non seulement de préserver l'intérêt des habitants de cet espace, mais vous pensez que c'est aussi un facteur stabilisant pour l'ensemble du monde ?
Oui, et je dirais plus euro qu'asiatique. Car, comme aurait dit le général de Gaulle, de Gaulle parlait toujours de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, si vous prenez l'espace russe, à l'est de l'Oural, vous avez 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire une superficie plus grande que la Chine, avec 30 millions d'habitants. Bon. Et à l'ouest de l'Oural, 7 millions de kilomètres carrés et un peu plus de 100 millions d'habitants.
En tout cas, merci beaucoup Thierry Monbrial. Du point de vue géopolitique, c'est un projet qui est certes enthousiasmant. Ce sera en quelque sorte une nouvelle frontière, non seulement géographique, mais sûrement aussi spirituelle et une voie vers l'avenir. Et nous en avons besoin, car c'est aussi de perspectives certainement que nous manquons. Toujours est-il que j'incite nos auditeurs qui souhaitent creuser ces sujets, car nous n'avons fait que les effleurer par rapport à ce qui se trouve dans le livre, à se plonger dans celui-ci, vivre le temps des troubles, temps qui sont donc inquiétants mais à la fois enthousiasmants. Donc vivre le temps des troubles, Thierry de Monbrial aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci à vous.